7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous restons dans la capitale française avec une enquête reportage. Vous allez le comprendre, c'est une histoire qui fait écho à d'autres histoires dans de nombreuses villes du monde. Le Grand Paris ou comment repousser les couches populaires toujours plus loin des villes. C'est un projet urbain qui voit éclore de nouvelles stations de métro en banlieue, 68 nouvelles gares, 200 km de métro d'ici 2030 et surtout un grand projet de mégalopole international. Et déjà, dans les futurs quartiers de gare, alors que les bulldozers sont encore à l'œuvre, les loyers commencent à flamber. Et la promesse de ces stations, qui doivent sortir de terre, fait déjà fuir, malgré eux, les habitants modestes. Ceux-là même qui, installés depuis des décennies, n'attendaient qu'une chose, le métro, justement, pour être enfin connectés à la métropole, et qui se retrouvent finalement toujours repoussé plus loin de la capitale. Alors pourquoi les classes populaires semblent être devenues indésirables dans les villes, reléguées à la périphérie ? Quel avenir, quel accès à l'emploi pour ces habitants ? Un phénomène qui fait écho aux politiques de déguerpissement pratiquées dans certaines métropoles africaines, d'Abidjan à Kigali en passant par Douala.
7 milliards de voisins.
Oui, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
Bonjour Charlie Dupiot.
Bonjour.
Vous avez sillonné la région parisienne de long en large, du nord au sud, et vous nous emmenez d'abord au Franc-Moisin. C'est une cité de logements sociaux de Saint-Denis dans le 93, des barres d'immeubles à deux pas du périphérique.
On y retrouve Django et Christine, deux habitantes inquiètes. Elles nous attendent, carton d'invitation à la main, en route pour une réunion publique avec élus, représentants de l'agglomération pleine commune, des bailleurs sociaux et bien sûr des habitants, tous inquiets pour l'avenir de leur quartier.
C'est l'invitation que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres.
Et donc ça vous convie à un moment d'échange sur le devenir des immeubles ?
Ouais, du bâtiment 7, vu que j'habite le bâtiment 7. Donc on va voir ce qui va se dire et ce qui va se passer.
On participe à des grandes messes d'informations et d'échanges, comme ils disent, en fait des échanges sur lesquels on n'a pas grande prise, en vous expliquant que votre logement, on ne sait pas ce qu'on va en faire, mais on va peut-être le détruire et que vous, il faut rester avec ce flou.
Et là, on en est où alors concrètement dans le quartier ?
Sur le Franc-Moisin, un grand changement, c'est la rénovation urbaine, hein, c'est démolition et reconstruction ailleurs. Démolition et reconstruction sur le quartier, mais c'est des logements ascension à propriété.
En fait, accession à la propriété.
Exactement. En fait, ce qu'ils veulent, c'est de la mixité sociale. Hein. Voilà. Comme on dit, Franc-Moisin, zone de guerre, zone de non-droit. Donc, ils veulent vraiment une ouverture. Ils veulent désenclaver les Franc-Moisins sans réellement l'accord de tous ses habitants.
Désenclaver, donc avec une ligne de tramway qui va arriver ici.
Une ligne de tramway qui va passer là, des routes qui vont passer là. Je vais ce soir à Réunion. Hey, toi aussi, ton immeuble est touché, ma belle.
Bah, je ne sais pas justement, je vais aller ce soir pour voir ce qui se passe, parce que c'est vrai que dans les réunions, bon, je ne vais pas souvent parce que mes horaires ne le permettent pas.
Parce qu'il faut dire qu'on est un quartier quand même assez solidaire. On est un grand quartier, il y a près de 8000 habitants. Donc
à partir de là, bon, vous voyez vous-même là le parc.
Voilà. Le parc en fait qui est au milieu de la cité entre les barres d'immeubles.
Vous voyez vous-même que l'herbe elle n'est pas tondue alors que nous on le demande régulièrement.
Il y a des déchets dans l'herbe.
Les bailleurs, ils ont laissé des immeubles se dégrader. Quand on veut se débarrasser d'un quartier aussi stratégique à même pas 100 mètres du Stade de France, il y a le Grand Paris.
Ah oui, c'est pour des nouveaux habitants.
Qui ont un autre pouvoir d'achat.
Entre nous, on parlait du taux de chômage sur Franc-Moisin. Est-ce que vous pensez vraiment que cette population-là elle peut acheter un appartement sur Franc-Moisin ?
Puisque là, ça va être du logement en accession à la propriété qui va être construit.
Comme on nous a qualifié lors d'une réunion publique, cité Franc-Moisin, c'est une population d'habitants désargentés. Une population désargentée ne peut pas acheter un logement. Donc automatiquement, c'est notre population qui va profiter des tarifs au mètre carré assez bas sur Saint-Denis.
À 5 minutes de Paris.
C'est-à-dire,
si vous ajoutez à ça 2024, les Jeux Olympiques,
qui vont être pas loin d'ici, à Saint-Denis et dans d'autres villes de la Seine-Saint-Denis.
Oui, exactement.
Vous savez combien de temps que vous habitez ici ?
Moi, je suis là depuis 2013. Moi, je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai tout ici, mais sauf que je travaille pas ici, je travaille sur Paris.
Ici, c'est que du logement social ?
Exactement.
Vous, par exemple, vous payez combien de loyers ici ?
500 euros par mois pour un F3 en famille. Par contre, les appartements sur Franc-Moisin ont une très très grande superficie. Et je suis bien dans mon logement. Hein. Je serais pas contente de partir par contre. Hein. Moi, je travaille. Moi, j'ai un emploi et ça fait un moment que je suis dans cet emploi-là. Donc,
quel est votre travail ?
Je suis technicienne administratif. Mon revenu moyen, je suis un peu plus du SMIC.
Le salaire minimum, c'est 1100 euros par mois. Et vous, comment vous vous sentez alors, vous qui vivez dans ce quartier, qui avez grandi ici ?
J'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas, on ne nous a pas dit. Des halls vont être détruits, ok, mais on va aller où ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on ne dit pas la vérité aux habitants, qu'ils prennent beaucoup de pincettes pour parler avec les habitants.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. T'habites dans quel bâtiment, toi ?
Ah non, moi, je suis pas...
Ah, c'est
pas
Jacques.
Ah. Bâtiment blanc.
T'as la chance, toi.
Oui, la maison du Cil.
Attention, la maison du Cil, je crois qu'aussi, ils sont dans la rénovation urbaine.
Ouais. Il y a deux bâtiments, je pense.
Ouais.
Il y a deux
bâtiments.
Il doit tomber, à toi ?
Mais je crois qu'ils vont juste refaire les façades, un truc comme ça.
Ah,
ouais, juste des travaux. Juste des travaux à la maison du Cil, mais c'est pas sûr. Hein.
Alors, on va rénover le quartier. On va faire du beau, apparemment, du beau, du neuf, du propre. Mais c'est pas pour ces gens-là. Les gens qui ont grandi ici, qui ont vécu ici depuis 30-40 ans, qui vivent les conditions sociales ici depuis 30-40 ans, alors qu'on dit, ça fait 40 ans que vous vivez dans un ghetto, eh ben eux, on s'en fout de leur avenir, ils ont qu'à aller plus loin.
Plus loin en région parisienne.
En région parisienne, dans des cités qui iront pas du tout mieux qu'ici. Et ça, c'est pas juste.
Charlie Dupiot, vous avez assisté à cette réunion publique de consultation dans cette cité des Francs-Moisins créée en 1974 et l'ambiance était vraiment difficile.
Oui, la réunion s'est tenue dans une salle de l'école primaire. Alors pour le contexte, il y a quelques mois, 4 ou 5 individus cagoulés ont pénétré dans une école maternelle juste à côté. Armés, ils ont violemment agressé la directrice et deux animateurs. Voilà pour le décor de ce quartier. Alors présent à la réunion ce soir-là dans cette école primaire au cœur de la cité, une soixantaine d'habitants assis en rang. Il y a beaucoup de mères avec leurs enfants. L'atmosphère est calme, attentive au début, quasiment silencieuse, jusqu'à ce mot « détruire » prononcé après plus de 20 minutes de réunion. Là, brouhaha immédiat dans la salle. Fallait le dire dès le début, c'est pas un jeu là, nous on habite ici, on vit ici. Les réactions fusent, on lève la voix pour se faire entendre. Et les questions aussi fusent, c'est quand ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors face à ces habitants inquiets, un PowerPoint est affiché à l'écran avec un plan actuel du quartier et puis le projet. L'élu qui est présent, les représentants de Pleine Commune Habitat ainsi que les bailleurs sociaux insistent sur le fait que les dysfonctionnements du quartier viennent de sa conception. Ils affirment aussi, c'est une nouvelle page qu'on va tourner avec vous, ce projet ne se fera pas sans votre avis. Autant dire, de l'extérieur, on voit ça comme un simulacre de consultation populaire.
Le projet justement, c'est de détruire certains bâtiments, certains immeubles.
Oui, pour pouvoir construire des rues dans ce quartier qui est largement piéton et donc le rendre plus accessible avec un objectif annoncé pendant la réunion de 85% de logements sociaux dans le quartier. Donc ça veut dire 15% en moins qu'avant, 15% d'expulsés, même si on peut douter de ce chiffre. Alors au mot rénovation, refonte du quartier, les habitants répondent, est-ce que moi je vais pouvoir y habiter ? Beaucoup le disent, ils ne souhaitent pas quitter ce quartier dont ils se plaignent pourtant beaucoup. Les représentants qui sont là promettent le relogement dans les prochaines années d'ici 2 à 5 ans de tous les locataires qui sont donc tous en logement social. C'est obligatoire, hein, avec le droit à 3 propositions après une enquête sociale individualisée auprès des familles pour savoir où elles veulent vivre. Alors les habitants, bien sûr, ont une question, la même, et le loyer et les charges. Avec un nouveau bail, tout cela va forcément augmenter. Et puis aussi une autre interrogation, est-ce que c'est à cause du Grand Paris ? Grand Paris, l'expression est reprise de part et d'autre dans l'Assemblée. En écho, le Grand Paris sonne comme une menace. Alors quel impact peut avoir la construction de cette métropole sur les habitants de la banlieue. J'ai posé la question à la géographe Anne Clerval. Elle a publié un ouvrage au titre provocateur « Paris sans le peuple ». Elle définit pour nous la gentrification, ce mot que l'on entend de plus en plus et qui concerne bien des métropoles européennes.
Qui dit embourgeoisement, en fait, ça se passe pas par le fait que les gens deviennent plus riches eux-mêmes, hein. C'est un remplacement d'une population par une autre. Donc en gros, des classes populaires, ouvrières ou employées peu qualifiées, souvent d'origine étrangère, d'ailleurs à Paris, parce qu'en fait, il y a une concentration de classes populaires précaires. qui sont plus souvent immigrés, qui sont les plus dominés des classes populaires, on va dire, et qui sont remplacés par des classes moyennes. On va dire le plus souvent c'est les classes moyennes, moi j'avais qualifié de classes intermédiaires, c'est-à-dire des gens qui ont un haut niveau de diplôme, par exemple des enseignants, des journalistes, des producteurs culturels, des artistes, etc. Ils sont dans une position, ça peut être des gens assez aisés comme des gens qui sont précaires, et d'ailleurs à Paris il y a pas mal d'intellos précaires qui participent à la gentrification, eux aussi repoussés par la hausse des loyers dans d'autres quartiers. Là où c'est le plus fort et le plus marquant, c'est qu'en fait, des villes comme Londres, New York ou Paris, par exemple, sont des villes qui sont anciennement industrielles, qui étaient des pôles industriels majeurs, et qui aujourd'hui sont des villes très désindustrialisées, où le taux d'emploi ouvrier est très très bas. Donc le changement, il a été énorme, en fait, en l'espace de quelques décennies. Une ville qui est passée d'un pôle industriel à un pôle tertiaire avec très peu d'emplois ouvriers. Donc ça, c'était déjà dans les années 60-70. Mais ensuite, c'est surtout depuis les années 80-90 qu'il y a une accélération de la désindustrialisation et que ça va se passer à l'autre bout du monde, là où on peut payer beaucoup moins cher les gens. Et donc, ça veut dire que, par exemple, dans Paris, il y a de moins en moins d'emplois ouvriers, de plus en plus d'emplois cadres, en termes d'emploi déjà. Après, la population qui était ouvrière avant, elle ne disparaît pas par magie. Donc soit elle se reconvertit un peu dans les services, soit elle est au chômage. Même s'il n'y a plus d'emploi pour elle, elle est justement très précarisée, mais elle est toujours là.
Toujours dans Paris.
Dans Paris ou en banlieue, enfin dans l'agglomération. Ils occupent ce qui reste de parcs, soit dégradés, soit des petits logements. Donc il y a une forme de dépossession sur place pour certains. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là, mais c'est plus leur quartier en fait. En fait, il faut voir que c'est des choses qui se jouent sur le marché du travail au niveau international, un peu loin de la ville et de Paris, par exemple, mais qui ont des conséquences sur Paris. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le mode de production de la ville. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont très investies, qui sont très valorisées, puis d'autres qui sont peu investies, dévalorisées, ou qu'on laisse dévaloriser avant de les re-rentabiliser. Et de fait, les quartiers ouvriers de l'Est parisien, hein, qui étaient ouvriers depuis longtemps, il y avait une localisation de l'industrie, etc., ils se sont dévalorisés. Pendant longtemps, on n'a pas investi dans ces quartiers. Hein. Et la gentrification, c'est un peu le résultat de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, ça devient très lucratif de réinvestir dans les quartiers ouvriers qui sont quand même centraux, qui sont bien reliés.
Donc là, on a parlé de Paris intramuros. Qu'est-ce qui se joue dans le Grand Paris et donc dans cette idée d'une grande agglomération parisienne qui regroupe de nombreuses villes de banlieue ?
Donc le Grand Paris, c'est plusieurs choses. C'est d'une part un projet d'aménagement énorme de créer un nouveau réseau de transport. Qui dit créer un nouveau réseau de transport, à chaque fois que vous allez créer une gare, vous allez créer un espace où tout d'un coup c'est beaucoup plus accessible et on peut donc en fait faire de la plus-value sur des terrains qui valaient pas grand-chose mais qui grâce au métro vont valoir beaucoup.
Et même avant que les stations de métro ouvrent.
Il y a déjà des transactions, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gros investisseurs qui sont en train d'acheter énormément de terrain autour des futures gares parce que pour l'instant ça vaut rien dans une grande agglomération où il y a une forte demande de logements. Et qu'est-ce qu'on va construire ? On va construire beaucoup de logements, d'abord des bureaux, mais aussi beaucoup de logements qu'on appelle des logements de standing ou des logements haut de gamme, c'est-à-dire des logements neufs, privés, qui coûtent cher et qui ne sont pas du tout accessibles aux classes populaires et même aux petites classes moyennes ou aux intellos précaires, par exemple. Là-dedans, selon les projets, il va y avoir un peu du logement social. Mais même si on arrive à en faire 40% dans un quartier, ça veut dire quand même qu'il y a 60% de logements neufs, haut de gamme, chers, dans des communes, par exemple en Seine-Saint-Denis, qui sont majoritairement populaires. Donc c'est déjà énorme comme changement social. Il faut savoir quand même qu'en Île-de-France, on estime à 1 million de personnes, des gens, des ménages, qui ne peuvent pas accéder au logement social le plus social. Ça, c'est trop cher pour elles. Et ça, le logement social très social, qu'on appelle le PLAI, on en construit assez peu en fait. Donc c'est ça que je veux dire aussi, c'est que même quand on va faire du logement social dans ces nouveaux quartiers, il faut voir quel logement social on va faire. Mais il faut savoir qu'une grande partie des classes populaires précaires, notamment celles qui vivent aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, ne pourront pas être logées dans ce logement social-là. Si vous voulez, c'est comme si on changeait de forme de la gentrification et qu'on était à un deuxième stade. Parce que tout d'un coup, ça va être beaucoup plus large en termes d'ampleur territoriale et que c'est appuyé par les pouvoirs publics. Alors que dans Paris, il n'y a pas eu besoin de l'action des pouvoirs publics pour que ça se fasse.
En fait, là, c'est presque de la gentrification contrôlée, télécommandée.
Oui, c'est ce qu'on appelle la gentrification planifiée. C'est considérable. Là, on mesure pas encore, et probablement d'ailleurs les habitants de ces quartiers ne mesurent pas encore ce qui va leur arriver. Mais le plus compliqué, c'est comment faire prendre conscience aux habitants des classes populaires que c'est une menace pour eux. Parce qu'il y en a aussi qui vont bénéficier de ces nouveaux axes de transport, et ça va vachement faciliter leur vie.
S'ils restent sur place.
S'ils arrivent à rester sur place. Après, bon, par exemple, des gens qui restent dans un logement social qui ne va pas être démoli, etc., etc. Les conséquences, elles vont être dans peut-être 10 ans ou peut-être même 20 ans. En particulier, les gens qui vivent dans la précarité, ils ne se projettent pas du tout à 10 ou 20 ans. Donc même si on va leur tenir un discours, on dit « Vous vous rendez compte que là, ce qui se passe, c'est quelque chose qui peut-être dans 20 ans vous empêchera de vivre là ?» C'est impossible pour eux, là, de dégager du temps pour lutter contre ça. Ils sont déjà en train d'essayer de survivre au quotidien. C'est aussi pour ça que c'est très facile, du coup, de les expulser. Il n'y a pas de contre-pouvoir, là, actuellement. Il n'y a pas de résistance.
Sur ces mots, je quitte la géographe Anne Clerval et je me rends à L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, au sud de Paris. Depuis la gare Saint-Lazare, qui est plutôt centrale, je mets 45 minutes en prenant un métro et un bus. Et ce trajet durera normalement seulement 23 minutes, presque moitié moins, une fois que le réseau du Grand Paris Express sera ouvert, si j'en crois le simulateur qu'on peut trouver sur le site internet de ce futur métro. À L'Haÿ-les-Roses, je vais retrouver Samia Herel. C'est une habitante engagée du quartier des Dahlias, où une gare du Grand Paris est en train d'être construite.
Voilà, c'était là, le terrain. Normalement, on doit pouvoir y voir quelque chose.
Là, ici, il y avait une salle de quartier.
Là, il y avait la salle de quartier, il y avait un grand parc là. La bouche de métro va être là. Et puis là, on va peut-être passer dans la cité, comme ça je vais vous montrer. Nous, c'est un combat que nous avons mené. Pour avoir ce métro, nous on était avec la municipalité précédente comme participants, parce qu'un métro ici, c'était le top pour tous nos locataires, quoi. Ce qui n'était pas prévu, c'est que les locataires, on les virait. Parce qu'ils vont mettre du propriétaire, là. Et cet immeuble en accession à la propriété.
Vous savez combien de temps que vous habitez dans ce quartier ?
Plus de 30 ans. Et la cité, elle est tout ça. Les trois immeubles là, au fond. Cet immeuble-là va être réaménagé, enfin... rénové. Ça va, maman ?
Comment on va ? Ça va bien ? Ouais.
Bonjour.
RFI.
RFI.
C'est ça.
Il faut relater ça, quoi. 200 familles à expulser de cette manière, sachant que nous attendons depuis des années et des années l'arrivée des métros pour nous. J'ai même participé à des manifestations pour l'arrivée des métros ici. J'ai signé même des pétitions et tout ça pour le futur de mes enfants. Pour le déplacement, pour la rapidité d'aller à Paris, pour mes enfants à l'école, éventuellement dans le futur, le travail à Paris, tout ça, c'était bien comme projet. Voilà.
Et vous, qu'est-ce qu'on vous a proposé comme solution ?
Pour l'instant, on ne m'a rien proposé, mais d'après certains voisins, ils le proposent des endroits plus loin, loin de métro.
Ça fait combien de temps que vous habitez ici ?
Ça fait bientôt 20 ans. Mais une fois que le métro arrive là, monsieur, circulez, vous ne méritez pas le métro. Voilà.
Alors donc là, on vient de rencontrer un voisin, en fait, locataire bah, aussi.
Oui, il habite là, au premier étage.
Et il est dans la même situation que vous ?
Eh bien oui, parce que tout cet immeuble va sauter. Donc ici, il y en a 60 familles qui sautent. Sur l'immeuble du milieu, il y en aura 80. Et le mien, 60. En tout, ça fait 200.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Si, alors là, on rentre dans votre immeuble.
Bonjour.
Bonjour, enchantée. Bonjour.
Bonjour.
Régis, elle est pas méchante. Hein.
Ok, pas de soucis. Donc on est arrivé chez vous, là ici. On est au deuxième étage.
Deuxième étage.
Et vous vivez avec votre fille ?
Il y a ma fille là, mes trois petits-fils qui sont devant leur console. Ça fait 56 mètres carrés.
Combien vous payez de loyer ?
Alors ici, 300... Je ne pourrais pas payer des loyers à 900 euros, 3 pièces, c'est pas possible.
Vous êtes à la retraite ?
Oui. On a la fenêtre de la cuisine avec ça, donc ce qui fait qu'ici, c'est toujours lumineux. On est bien, quoi.
On a vu sur des travaux.
Et les travaux qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de creuser, je suppose.
Aujourd'hui, tout semble assez acté.
Tout est acté, c'est-à-dire que c'est l'énergie du désespoir, un peu. Quand ils ont fait ça, ils ne nous ont pas demandé notre avis. Avant.
Et vous, qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que normalement, donc selon le plan, en 2019, c'est l'année prochaine, ça sera disparu ici ?
Ça m'énerve, ça me rend malade, moi. Ça fait 10 ans que je me bats dans ce quartier pour pouvoir le faire vivre de manière conviviale. C'est-à-dire que, comme vous avez vu dans la cité, tout le monde se dit bonjour, on se dit bonjour. C'est quelque chose qu'on ne retrouvera jamais.
Vous menez des actions dans le quartier, oui, avec une association. Qu'est-ce que vous faites, par exemple ?
Ben, je suis la présidente de l'association des Dahlias, une association que j'ai créée avec un jeune de la cité, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire donc de l'aide aux devoirs, alphabétisation. On fait de l'aide administrative parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'un coup de main pour les papiers. Nous faisons des sorties, théâtre. On pourrait se mettre à n'importe où pour reconstruire ce qui a été construit ici en 10 ans, mais je ne suis pas Hercule.
Alors le bailleur s'est engagé à vous proposer 3 relogements différents, c'est ça ?
Voilà, 3 relogements. Et au bout du 3e, si on n'a rien, on est expulsable.
Où vous en êtes du relogement ?
J'attends, comme tout le monde, patiemment. J'ai rien rangé encore, hein. J'ai pas de carton, j'ai rien rangé. Parce que c'est quand même fatigant, c'est quand même une perte de repère, c'est quand même plein de choses pour déménager. On est petit ici, hein. C'est des petites gens, on n'est pas des... On n'a pas toutes les lois, on n'a pas d'avocats qui sont à côté de nous, on n'a rien, il faut chercher, il faut aller à la pêche aux infos, nous. Hein. On n'a pas de pouvoir, surtout. Et quand on n'est qu'une dizaine, le pouvoir, à part de les embêter à chaque réunion et leur dire « Non, vous n'avez pas dit ça », voilà quoi, ça ne sert pas à grand-chose.
Et vous dites aujourd'hui, c'est l'énergie du désespoir.
On a besoin de se faire entendre pour pas que les autres se fassent avoir, entre guillemets. Parce qu'il y a d'autres communes, le Grand Paris, il y a d'autres communes qui vont être touchées. Il faut que les gens se mobilisent avant. C'est pour ça aussi que je me bats.
Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins, reportage avec vous, Charlie Dupiot, vous avez enquêté sur le Grand Paris ou comment repousser les couches populaires toujours plus loin des villes. Ce quartier des Dahlias à L'Haÿ-les-Roses, au sud de Paris, est géré par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et si de telles démolitions et expulsions y sont possibles, Charlie Dupiot, c'est que le maire de la ville a aussi laissé faire. Alors, que peuvent faire les élus en général ? Finalement, quelle est leur marge de manœuvre sur tous ces projets immobiliers ?
Alors, certains se disent impuissants. D'autres veulent profiter du Grand Paris pour insérer plus de mixité sociale. C'est ce qu'ils disent dans leur ville. Et puis, d'autres entendent bien lutter. C'est le cas de Patrice Leclerc, maire communiste de la ville de Gennevilliers, où une station de métro de la ligne 15 doit ouvrir dans le quartier des Agnettes, un quartier qui est géré par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, donc au niveau de l'État en fait, et non plus seulement des élus. Une consultation a été menée par la mairie avec les habitants depuis 2011 pour savoir quels changements ils veulent apporter dans ce quartier 100% logement social. Patrice Leclerc, le maire.
La première rencontre qu'on a eue pour engager un protocole, notre surprise, ça a été de nous dire ben, il faut détruire plus que ce que vous avez prévu de logements sociaux et détruire donc les tours des Agnettes, de la rue des Agnettes, qui se trouve juste à côté de la gare du Grand Paris. Et leur prétexte, c'est de dire eh ben, c'est un lieu qui va être beaucoup plus attractif, donc on pourra construire de la copropriété pour faire venir des personnes différentes que ceux qui habitent aujourd'hui dans le quartier. Donc chose que nous avons refusée pour deux raisons. La première, d'abord, ça ne correspondait pas à ce qu'on avait décidé avec la population. Et la deuxième, je ne suis pas élu pour chasser les gens de Gennevilliers. Et donc, on a organisé des manifestations, des pétitions, on a fait une manifestation devant l'ANRU.
L'Agence nationale de rénovation urbaine.
On a obtenu la réhabilitation anticipée de 2 tours. Il me reste encore 3 tours à réhabiliter.
Parce que le plan de départ était de démolir 5 tours au total.
Oui. Bah, l'ANRU souhaitait qu'on démolisse 5 tours. Pour pouvoir reconstruire complètement des habitations complètement différentes à cet endroit-là.
Et alors là, pour ces 5 tours, on parle de logements sociaux d'une certaine catégorie pour les bas revenus.
C'est des tours où les logements, les loyers sont les plus bas de Gennevilliers, donc certainement presque les plus bas d'Île-de-France. Ça doit être de l'ordre de 100 à 200 euros le loyer. Donc c'est des logements où il y avait besoin d'être réhabilité pour que les gens soient logés dignement. Mais en même temps, on a besoin de garder ce faible niveau de loyer.
Donc pour l'instant, vous avez réussi à sauver, entre guillemets, 2 tours. Et en fait, pour bien comprendre, qu'est-ce qui se joue? Quel rapport de force se joue? Comment vous, en tant qu'élu, vous pouvez dire « Ah bah non, je veux pas que vous démolissiez ces tours-là »
Bah, c'est nous qui décidons déjà. Donc. Mais après, l'ANRU peut décider de pas nous financer, c'est ce qui se passe. C'est tout l'enjeu de la négociation, c'est-à-dire que je peux tout refuser, mais dans ce cas-là, le quartier bouge pas. Or, c'est un quartier qui se paupérise, qui se dégrade, et donc il faut arriver à le réhabiliter, à l'améliorer, à le réurbaniser, enfin, à remettre de la vie. Tout ça, il y a besoin de fonds. Et donc, c'est effectivement un petit bras de fer avec l'ANRU pour qu'on soit d'accord sur qu'est-ce qui doit changer. Et moi, je suis pour qu'on accepte le caractère populaire d'un quartier et qu'on mette plutôt des moyens pour que les gens vivent mieux.
Et alors, vous êtes une des dernières banlieues rouges communistes autour de Paris. En quoi la couleur politique pèse aussi sur votre façon de réagir à ce type de projet ?
Ça joue sur le fait que moi, je suis élu par une population et ce n'est pas pour la changer, la population. Il faut que les couches populaires se fassent respecter. Ils ont disparu du paysage médiatique, elles disparaissent du... Il y a très peu de politiques d'ailleurs maintenant issues de catégories ouvrières. Combien il y a d'ouvriers à l'Assemblée nationale ? De ce monde qui est plutôt généreux. Souvent, je dis, c'est à Gennevilliers qu'on a accueilli le premier restaurant du cœur. Ce n'est pas à Neuilly qui l'avait refusé à l'époque, c'est Gennevilliers qui l'a accepté. Les problèmes des personnes qui habitent Gennevilliers, c'est le niveau de salaire, c'est le chômage. C'est pour ça que je me méfie de ce concept de mixité sociale qui est un concept piégeant, qui est d'ailleurs humiliant pour les gens. Parce que quand on parle de mixité sociale, c'est toujours dans les mêmes quartiers. Et on ne parle jamais de mixité sociale à Neuilly, par exemple. Pourtant, il y en aurait certainement bien besoin.
C'est-à-dire qu'on parle plutôt de faire venir des habitants favorisés.
Oui, et donc on explique à des habitants normaux que les problèmes, c'est de leur faute et que ça ira mieux quand il y en aura d'autres à côté d'eux. J'alerte d'ailleurs même les couches moyennes sur cette idée de la mixité sociale. Ça se joue contre eux à court et moyen terme. Si on prend les Hauts-de-Seine, après avoir chassé les couches populaires, ce sont maintenant les couches moyennes qui ne peuvent plus habiter dans les Hauts-de-Seine. Et ceux qui viennent acheter à Gennevilliers, ce sont des gens qui viennent de Rueil, de Colombes, d'Asnières, de Clichy et de Paris. Et ils ne viennent pas parce que le maire de Gennevilliers a de beaux yeux ou que c'est plus sympathique. Ils viennent à Gennevilliers parce que c'est le seul endroit où ils peuvent acheter avec une pièce supplémentaire pour leurs enfants.
Ils viennent de banlieues plutôt favorisées.
Oui, donc moi j'attire leur attention. Couche moyenne et couche populaire, on a les mêmes intérêts. Il faut qu'on revendique le droit d'habiter en métropole du Grand Paris. Et c'est donc toute l'importance du logement public et du logement social.
Ce que disent certains élus républicains, notamment par rapport au logement social et à cette mixité sociale, c'est que faire venir des couches moyennes, voire des couches aisées, ça permet d'avoir plus de revenus dans la ville. C'est gagnant pour la ville et les autres habitants.
Plus de revenus pour quoi faire, puisque c'est les mêmes qui privatisent et qui ne développent pas le service public. Donc ils font revenir plus de revenus pour rien, c'est-à-dire à la limite pour la taxe d'habitation, mais je ne sais pas à quoi ça leur sert. Non, souvent ce qu'ils disent, c'est que ça permet de sortir des ghettos. Moi je dis, un peu par provocation, mais ce n'est pas complètement faux, avec 62% de logements sociaux à Gennevilliers, je suis en dessous des besoins de la région Île-de-France, de toute la population d'Île-de-France, puisque 80% des habitants d'Île-de-France sont éligibles au logement social. Est-ce que ce sont tous des cas sociaux, les 80% d'habitants d'Île-de-France ? Je ne le crois pas, parce que ce sont des employés de préfecture, des employés de mairie, ce sont des jeunes étudiants, ce sont des salariés. Pour moi, le logement social, c'est du logement public qui répond au droit au logement pour toutes et tous et qui permet de lutter contre la spéculation foncière et immobilière et qui permet à tout le monde d'habiter dans la métropole. Et j'attire même pour les catégories moyennes ou jeunes cadres qui arrivent, s'ils veulent que leurs enfants puissent rester en métropole, il faut qu'ils se battent sur ce terrain-là aussi. Et la démonstration est faite à travers le temps et encore aujourd'hui que si on ne se laisse pas faire, si on agit, on peut gagner. C'est d'ailleurs notre projet de ville à Gennevilliers, c'est de faire en sorte que les enfants et les petits-enfants des gens qui habitent aujourd'hui à Gennevilliers puissent continuer à habiter dans 20 ou 30 ans dans la métropole de Grand Paris. C'est-à-dire qu'il faut que la métropole ne soit pas une zone d'exclusion. Qu'en tout cas, sous prétexte de mixité sociale, les catégories populaires, parce que c'est ça la réalité, ne soient pas chassées. C'est pour ça qu'il faut construire puissamment du logement social dans l'ensemble des villes et pas nous empêcher là où on en a encore.
On vient d'entendre Charlie Dupiot, le maire de Gennevilliers, Patrice Leclerc. Plus de logement social, c'est le débat politique récurrent. Alors où est-ce qu'on en est en Île-de-France à ce sujet ?
Alors, la loi SRU, donc Solidarité et Renouvellement Urbain, adoptée en 2000, impose un quota de 25% de logements sociaux dans les communes de plus de 3500 habitants en France. Et les villes qui ne satisfont pas ce pourcentage doivent payer des amendes. La loi SRU a permis de construire plus de 600 000 logements en 18 ans en France. Mais le système est encore totalement saturé. 1 800 000 demandeurs de logement social dans le pays, dont plus de 700 000 rien qu'en Île-de-France. Ils attendent parfois pendant des années. À Paris, en moyenne, on peut attendre 3 ans. Alors accélérer la rotation de ce parc social est une des ambitions du gouvernement qui a soumis à l'Assemblée nationale un projet de loi, le projet de loi Élan, loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. L'idée, entre autres, c'est de faciliter la vente de ces logements sociaux à leurs locataires. Alors après le maire communiste de Gennevilliers, je vous propose de rejoindre maintenant Saint-Ouen. C'est une ville en bordure de Paris, qui est connue pour son marché aux puces, fréquenté par exemple par les touristes, entre autres. Après avoir été rouge communiste pendant 69 ans, la mairie de Saint-Ouen a été ravie en 2014 par un élu UDI de centre droit, William Delannoy, dont le cabinet n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Il entend rebaptiser la ville Saint-Ouen-sur-Seine, un nom un peu plus glamour, en référence à Neuilly-sur-Seine, et contesté même si ce projet n'a pas encore été adopté.
Alors dans cette ville, Charlie Dupiot, qui est desservie par la ligne de métro la plus saturée d'Île-de-France, la fameuse ligne 13, le Grand Paris Express doit ouvrir une gare enfin.
Oui, pour prolonger la ligne 14 qui devrait s'arrêter à la mairie de Saint-Ouen. Et juste à côté de cette gare, dans une ancienne friche industrielle désertée, un quartier a été construit en bord de Seine, les Docks. Raoul Seigneur est le président de l'association de quartier Mon Voisin des Docks. Il nous fait visiter et veut préciser qu'il parle en son nom en tant qu'habitant.
Alors là, on est dans le quartier des docks de Saint-Ouen. C'est un quartier qui se situe près de la Seine à Saint-Ouen. Et là, on est plus particulièrement sur une grande place, le Parvis, qui est entouré de bâtiments assez modernes, différents chacun. Et donc, on a des bâtiments un peu colorés, d'autres qui sont très cubiques, noirs, d'autres qui ont des balcons qui s'avancent un petit peu gris, avec des effets de miroir et qui jouent sur le reflet du ciel dessus. Le tout bordé par des grandes plates-bandes vertes et quelques arbres et d'un parc.
Et ça fait vraiment quartier neuf en fait, quartier sorti de terre il n'y a pas longtemps.
Les premiers habitants sont venus en 2015, donc il est effectivement neuf.
Et là, on est à combien de temps à pied de la prochaine gare du Grand Paris qui va ouvrir, donc mairie de Saint-Ouen ?
Si on connaît les raccourcis, on met 6-7 minutes. Et puis derrière nous, il y a la seconde phase des docks qui, elle, est loin d'être finie, où il va y avoir d'autres bâtiments, davantage de rues piétonnes, ce genre de choses.
Et vous habitez dans quel bâtiment, là ?
Alors moi, le mien, il donne pas sur le Parvis, il donne de l'autre côté, plutôt sur Paris, et on le voit pas, on ne le distingue pas, parce que le quartier a une rue transversale piétonne.
On va voir la rue piétonne ?
Ouais, c'est parti.
Et alors, pourquoi vous avez voulu vous installer ici, donc à partir de l'été 2015, il y a presque 3 ans, alors qu'il n'y avait en fait rien quasiment ici ?
Moi, je venais de Paris et pour des raisons professionnelles, j'avais besoin de rester près de Paris ou dans Paris et que financièrement, il n'y avait pas moyen de pouvoir habiter dans Paris. Et à l'époque, c'était un projet qui avait été conçu par Madame Rouillon, l'ancienne maire communiste de la ville, et qui avait limité les prix. Donc on avait un prix au mètre carré qui était de 4 200-4 300 € au mètre carré.
Oui, c'est au moins la moitié moins de ce qu'on peut payer à Paris quand on achète.
Ah oui, complètement. C'est un prix qui défie toute concurrence en Ile-de-France. Hein, on est à quelques pas du périph', on est aux portes de Paris, on fait presque partie de Paris. Alors certes, il y a certains problèmes, on parle de drogue à Saint-Ouen, il y en a, il y a des quartiers qui sont victimes de ça, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'associations qui font vivre la ville et qui fait de cette ville-là une ville très dynamique. Pour nous, c'était avantageux, c'était la seule possibilité de pouvoir, en tout cas, point de vue de nos finances, de pouvoir avoir un appartement. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'habitants ici, qui sont des jeunes familles. Parce que le profil, c'est un peu ça, c'est des jeunes couples qui ont un enfant en bas âge ou pas encore d'enfant.
Et quelles sont les professions de ces nouveaux habitants ?
J'ai l'impression qu'il y a énormément d'instituts, d'éducateurs, etc. Mais bien sûr, c'est réducteur, il y a plein de professions différentes. Il y a des gens qui travaillent pour les transports en commun de la ville. Et puis, il y a aussi 40%, 45% de logements sociaux qui fait que le quartier est très mixé. Voilà, il y a plein de cultures et de gens différents.
Donc là, on est arrivé là dans cette rue piétonne.
On est à l'angle de deux rues où se trouve l'école primaire Le Petit Prince.
Bonjour.
Merci.
Donc là, on vient de vous distribuer un prospectus.
Oui, on vient de me distribuer un prospectus. C'est une salle d'escalade, le Blockout. Et ça fait partie aussi des choses qui permettent de bien nous sentir dans le quartier parce qu'on a, c'est vrai qu'on manque un peu de commerce et les habitants essaient de se mobiliser, entre autres autour d'une association, pour faire venir des commerces et pour essayer de faire accélérer les problèmes juridiques qui font que les commerces pour le moment ne sont pas ouverts. C'est un petit peu le point noir du quartier, les commerces. C'est la condition pour qu'un quartier vive. Voilà. Et c'est sûr que là, pour le moment, c'est très calme.
Vous, comment vous vivez le fait de participer à ce mouvement global de gentrification ? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée ? Donc un mouvement qui aussi va contribuer à moyen terme à repousser un peu plus les couches populaires loin de Paris.
C'est pas un choix. Moi-même, je sors de Paris, donc j'ai été repoussé de Paris. Donc c'est pas la première idée à laquelle on pense quand on vient s'installer dans un quartier. On pense à trouver un toit pour ses enfants, on pense à essayer de trouver un endroit sympa où ils vont bien vivre. Alors effectivement, quand la ligne 14 va arriver, quand tous les commerces seront là, quand ils vont rénover la départementale qui fait la jonction entre la Seine et notre quartier et où on peut espérer que ce soit un peu plus piéton, etc., les immeubles vont prendre de la valeur, ils vont devenir plus chers et ça va effectivement sélectionner les gens qui pourront venir habiter là. Ça, c'est certain, ouais. Mais ce sera le cas de toutes les villes de la petite couronne. C'est pas quelque chose qu'on peut décider de changer ou non, ou de freiner ou non. Je pense que la création de l'association de quartier dans les docks montre aussi que la volonté, c'est aussi d'essayer de freiner ça et de garder ce côté village. Mais pour autant, on a bien conscience que on est David contre Goliath. On est face à un système qui pousse à ça. On ne peut pas le changer. Enfin, ce n'est pas un quartier qui va pouvoir le changer.
Donc à Saint-Ouen, Charlie Dupiot, la station de la ligne 14 mairie de Saint-Ouen doit ouvrir en 2020.
Oui, et il faut savoir que le Grand Paris Express représente un vrai coût, 35 milliards d'euros au total, et les chantiers ont beaucoup de retard. Benoît Labatte est le directeur de la valorisation et du patrimoine à la Société du Grand Paris, une société créée par l'État qui pilote la construction de ce chantier gigantesque et donc la programmation des 68 nouvelles gares. Et petit détail, hein, d'ailleurs, ce sont des gares avec un bâtiment en extérieur et la possibilité donc d'y accueillir des commerces, avec bien sûr aussi des questions sur l'aménagement autour dans le quartier, une démarche qu'on imagine forcément spéculative. Alors dans le bureau de Benoît Labatte, on voit un plan des futures lignes de métro qui vont voir le jour avec les étapes à venir et notamment celle attendue de 2024 des Jeux Olympiques à Paris.
Évidemment, ce projet du Grand Paris avec ses 200 km, il concerne à proximité immédiate plusieurs millions d'habitants. Sur 68 gares, nous avons plusieurs millions de riverains. Pour autant, la Société du Grand Paris, au-delà de ce que les textes prévoient, a souhaité engager des concertations dites renforcées. Et donc, dès l'automne 2012, pour la première ligne, la ligne 15 Sud, nous avions rencontré la population. Pour vous donner une idée, la ligne 15 Sud, elle comporte 16 gares. Elle comportera, quand elles seront réalisées, 16 gares sur 33 km. Nous avons conduit 21 réunions sous l'autorité du directoire de l'époque. En 21 réunions, on avait reçu 6300 personnes. Je peux dire qu'on n'a pas vu plus de 10 personnes à l'époque opposées au fait d'avoir une gare venant leur permettre de, je dirais, circuler très aisément en Ile-de-France.
6300 personnes sur cette zone-là, c'est peu finalement?
C'est à la fois peu et énorme. Plus de 300 personnes en moyenne par réunion, ce qui était très beau pour nous, avec surtout une très belle acceptation du projet. Quand on vous propose un réseau de transport, les gens sont extrêmement heureux. Quand on commence à être à la phase des chantiers et des travaux, là, ils voient véritablement que ce transport, on ne l'a pas sans, évidemment, bouleverser leur vie pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Par rapport, effectivement, à ces habitants directement concernés par les travaux, qu'est-ce que vous proposez comme indemnisation et comme proposition de relogement, notamment pour les habitants dont les logements vont être démolis ou ont déjà été démolis?
D'abord, on a essayé, dans la mesure du possible, de toucher le moins, évidemment, d'immobilier privé, donc de bâtiments de logements, voire de bureaux, mais de logements a priori. Et évidemment, là, nous avons une politique obligatoire, non seulement d'acquisition, mais de relogement ou d'aide au relogement dans la mesure du possible. Et donc, toutes nos acquisitions, quasiment toutes, se sont faites à l'amiable, sans trop de difficultés, donc, puisque 96%, par exemple, des acquisitions nécessaires à ligne 15 Sud, il y en avait plus de 2500 à faire, dont, je rassure les auditeurs, plus de 80% sous terrain, bien évidemment, se sont faites à l'amiable. Ça veut dire aussi qu'on a eu quelques pourcents par voie d'expropriation.
Alors vous dites que ce projet du Grand Paris est largement accepté par les habitants de la région. Néanmoins, il y a quand même un grand flou qui persiste à ce sujet et aussi des peurs de certains habitants qui se rendent compte que les quartiers des gares vont devenir des quartiers plus modernes, certainement plus favorisés et donc à terme, peut-être dans quelques années, voire dans quelques décennies, les éloigner encore plus en fait de Paris. Donc en fait, il y a quand même une crainte. On ne peut pas dire que le projet est accepté largement.
Il est accepté extrêmement largement. Je pense que le moindre sondage nous le prouverait. En revanche, ce que vous évoquez comme crainte est une crainte légitime. J'évoquais ces réunions de concertation dites renforcées et immédiatement, on a perçu, parmi les questions du public, est-ce que demain, les prix ne vont pas flamber autour des gares et provoquer un exode, un exil, en tout cas un déplacement des populations avec le moins de moyens. Il y a véritablement un intérêt, effectivement, pour les promoteurs, pour les acteurs de la ville, qui commencent à s'intéresser à un quartier qui, mieux desservi, devient évidemment plus attractif. L'intérêt, effectivement, c'était de ne pas faire partir les gens. Ce groupe de travail que nous avons mis en place d'observatoire du foncier autour des gares, on l'a fait clairement à la demande des élus. Il appartient aux élus ensuite de mettre en place les moyens de garder du logement de tout type, du logement social, du logement en accession, du logement intermédiaire, qui est un produit qui se développe beaucoup aujourd'hui entre finalement les deux branches, pour garder des quartiers équilibrés. Et même des maires qui sont très très favorables aux logements sociaux, politiquement à gauche, ont souhaité faire rentrer aussi du logement en accession.
Oui, des communistes.
Voilà, exactement. Donc, ils ont mixé en proposant des opérations urbaines mixtes en attribuant du logement social et du logement privé. Mais jamais la SGP se permettra de choisir seule
la Société du Grand Paris
un projet urbain qui relève avant tout de la compétence des élus du territoire.
Mais de dire ça aussi, ça permet de vous défausser peut-être de prochains changements dans le quartier, en fait, si vous dites on n'est pas responsable.
Pas du tout. Si vous voulez, nous, la programmation, on va la faire, mais on ne peut pas faire une programmation qui aille à l'encontre des objectifs de l'État. La mixité sociale est un objectif de l'État. Si vous n'avez qu'un type de population, vous n'avez pas de mixité, il n'y a pas d'ouverture sur le monde, il n'y a pas de chance de faire progresser les gens.
Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux, habitants, mais aussi géographes, urbanistes, qui reprochent au Grand Paris d'être une machine à exclure, et notamment les couches populaires?
Quand on habite la banlieue, on n'attend que le métro. C'est un banlieusard qui vous le dit, qui va travailler en banlieue aussi, très loin de chez lui. Donc la seule chose à laquelle on aspire les uns les autres, c'est d'avoir enfin un transport efficace qui nous évite de passer 1h30 tous les matins dans des transports qui fonctionnent très mal. Paris, c'est 2 millions d'habitants qui ont un métro tous les 500 mètres. Aujourd'hui, l'Île-de-France, ce sont 9 millions d'habitants, près de 10 millions, qui n'ont pas ce métro autour. À partir du moment où vous offrez ces métros à ces 10 millions de franciliens, vous leur offrez un accès à l'emploi beaucoup plus aisé, un accès aux loisirs qu'ils n'avaient pas. Et si, effectivement,
si de fait, ils sont obligés de s'éloigner peut-être parce que le coût de la vie de leur quartier a augmenté.
Si vous voulez, sur 10 millions, combien s'éloigneront? Peut-être quelques milliers parce que quelques opérations auront lieu autour de la gare. Mais d'abord, s'éloigner de combien? De quelques centaines de mètres, peut-être pour certains d'entre eux. Maintenant, il est clair que 9 millions de franciliens nous demandent tous les jours le métro.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. En 4 reportages de Charlie Dupiot, Le Grand Paris, comment repousser les couches populaires toujours plus loin des villes, elles qui justement étaient en attente de ces 68 nouvelles gares, de ces 200 km de métro. Alors l'argument pour défendre Le Grand Paris, ce sont les transports, les transports, les transports, Charlie.
Oui, et les travailleurs franciliens mettent en moyenne 1h24 chaque jour pour se rendre et pour revenir de leur lieu de travail. En moyenne, ça fait 27 km parcourus par jour par ses habitants. L'autre argument avancé, ce sont aussi les bénéfices qu'aura ce super réseau de transport sur l'économie de la région, de l'Île-de-France et même de tout le pays. Il faut savoir que la région parisienne dégage déjà 700 milliards d'euros tous les ans de PIB. Donc ce Grand Paris doit devenir une locomotive pour la France. Mais le Grand Paris ne peut pas se faire sans ses habitants, qui sont 9 millions. Et pourtant, cela semble bien être la direction qui est prise. Selon Frédéric Gilly, il est directeur associé de l'agence Grand Public et professeur affilié à l'école urbaine de Sciences Po.
Aujourd'hui, les débats participatifs existent, mais ils se font sur une base un peu biaisée. On définit les terrains sur lesquels on considère que les habitants sont fondés à s'exprimer.
Souvent, ce sont des sujets très spécifiques.
Des sujets très spécifiques, très techniques, ce qui fait que peu de gens viennent, toujours les mêmes, jamais ou quasiment les habitants des couches populaires, jamais les parents isolés.
Et là, on a l'impression qu'un grand nombre d'habitants subissent, en fait.
Oui, en fait, les habitants subissent et se posent la question de savoir quel est le pouvoir qui reste à leurs élus. La question qui revient de manière générale, si on creuse un tout petit peu derrière, c'est est-ce que, citoyens, on a encore du pouvoir sur nos vies? Ils voient des métros qui arrivent et ils se demandent si ça va pas faire monter les prix. Mais comme personne ne parle de la ségrégation à l'échelle de la métropole, chez les élus, parce que c'est un sujet qu'aucun n'arrive véritablement à maîtriser. C'est un habitant d'Ivry qui disait récemment dans une interview, si vous voulez comprendre comment fonctionne la région parisienne, c'est simple. Hein. Les Qataris ont racheté Paris, les Parisiens sont en train de se faire chasser, donc ils rachètent la banlieue, et nous en banlieue, bah, on va devoir aller au-delà, dans le 7-7, dans le 60, encore plus loin. Cette description, c'est un raccourci très rapide. C'est pas ce qui se passe dans le détail. Il y a plein d'endroits dans lesquels il y a des outils qui existent, de logements sociaux qui restent et tout. Mais c'est cette petite musique-là qui s'impose. Et comme les élus ne la traitent pas, comme par ailleurs elle recouvre l'évolution de la carte des prix immobiliers en Île-de-France, elle alimente le fait que cette métropole qui est en train de se construire, globalement, les Franciliens se disent finalement elle n'est pas pour nous. Alors elle est pour qui? Elle est pour la compétition internationale, elle est pour les grands groupes, mais elle n'est pas pour les Franciliens. Et ça nourrit le fait que ben, les gens partent en province parce qu'ils se disent ben, si j'ai envie d'avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie, un meilleur équilibre de vie, il vaut mieux que j'aille ailleurs. L'Île-de-France continue à gagner des habitants, mais essentiellement grâce à sa vitalité démographique. C'est la région la plus jeune d'Europe, c'est un des endroits dans lesquels on fait le plus d'enfants en Europe, mais autour de 35-40 ans, les gens partent. Soit vous êtes proche de Paris mais vous n'avez pas de pouvoir d'achat parce que vous avez tout claqué en logement. Soit vous êtes loin de Paris, mais vous n'avez pas de vie, parce que vous passez tout dans les transports. L'entre-deux, il n'existe pas.
Qui forme en fait les rangs de ceux qui partent à la trentaine, à la quarantaine d'Île-de-France et qui vont en province?
L'essentiel, c'est la classe, les cadres moyens, quoi. Tous ceux qui ont les moyens de partir, parce que les classes populaires n'ont pas beaucoup les moyens de partir. parce que c'est un coût.
Par rapport aux couches populaires, qui sont donc acculées un petit peu par ce Grand Paris, quel avenir pour elles? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles font?
Mais c'est un peu la question. C'est une question pour l'avenir de la région parisienne, parce qu'à la différence de Londres, New York, dont le cœur fonctionne sur le seul secteur économique et financier, c'est différent pour la grande banlieue. Hein. La grande banlieue londonienne est encore très industrielle. Mais le cœur, ce qui fait la compétitivité de Londres, la place de Londres à l'international, c'est des fonctions qui n'ont pas forcément besoin de techniciens ou d'ouvriers. Paris, c'est une capitale industrielle, c'est pas une capitale financière. Aujourd'hui, il y a de l'aéronautique, il y a de l'automobile, il y a de l'informatique, toutes les questions des intelligences artificielles. Et quand vous avez un chercheur, pour un chercheur, vous avez besoin de 5 ou 6 ingénieurs. Pour 5 ou 6 ingénieurs, vous avez besoin de 20 ou 30 techniciens. Ouais. Enfin, quand on parle d'une métropole gentrifiée, on parle d'une métropole dans laquelle les couches populaires, elles n'ont pas disparu, elles sont juste reléguées très loin. Or, si elles sont reléguées très loin, elles ne peuvent plus travailler correctement dans le cœur de la région. Or, leur travail est fondamental pour la compétitivité du territoire. C'est un problème d'attractivité et de rayonnement économique des entreprises.
Et en même temps, c'est cette attractivité qui les repousse un peu plus loin. Enfin, c'est paradoxal, en fait.
Et c'est pour ça que la question du logement social est fondamentale. Il faut en construire dans les villes les plus riches, et il faut améliorer le niveau des logements sociaux dans les quartiers populaires. Je me souviens à Villeneuve-Saint-Georges, quand même une commune très populaire de la région parisienne, une habitante dit « Paris c'est une mine d'or et la mine d'or c'est nous ». Parce que c'est nous qui allons travailler tous les matins à Paris. Peut-être qu'on fait les ménages, mais si on ne faisait pas les ménages, Paris s'effondrerait aussi. Et donc on est tous importants.
Alors dans ce jeu de domino où finalement tout le monde exclut tout le monde mécaniquement et cyniquement, il faut aussi retenir un autre élément que démontre votre reportage, Charlie Dupiau, c'est le concept politique de mixité sociale qui est très instrumentalisé dans le projet du Grand Paris au service non pas du vivre ensemble mais du développement économique et de la spéculation.
Oui, parce qu'en fait on va déplacer les ghettos plus loin avec toujours autant de problèmes de transport public et donc encore plus loin des emplois pour les habitants qui vont devoir partir. Or il y aurait mixité sociale comme le disait d'ailleurs un élu si les classes populaires pouvaient à leur tour re-rentrer dans Paris, donc s'il y avait en fait un double sens ou un chassé-croisé. Ici la mixité sociale dont on parle n'est qu'un déplacement des mêmes ghettos qu'on dit vouloir désenclaver pour les améliorer. Alors voilà, pour de nombreux observateurs, les exclus, les perdants en fait du Grand Paris sont ses habitants de couches populaires. Et pour éviter cette éviction programmée, il faudrait une réelle volonté politique, à la fois venant des élus au niveau local, mais aussi de l'État qui doit maîtriser le foncier, qui doit maîtriser ses usages et qui doit, pour de nombreux géographes et de nombreux urbanistes, construire plus de logements sociaux, ce qui ne semble pas être la direction prise par le gouvernement actuel.
Merci à vous Charlie Dupiau. Le Grand Paris, repousser les couches populaires toujours plus loin des villes. C'était donc un reportage de Charlie réalisé par Romain Dubrac et bien évidemment à consulter en libre service sur l'application RFI Pure Radio. Vous cliquez sur magazine et 7 milliards de voisins. Demain 7 milliards, on parlera cuisine mais loin des tambouilles de l'immobilier en Ile-de-France.
Milliards de voisins, c'est fini.